Pourquoi y a-t-il toujours dans la vie quelque chose qui cloche?
L'inconscient, ça parle. Et ça parle dans une langue qui n'est pas une langue commune. L'inconscient parle dans une langue particulière à chacun. Ça n'existe pas en psychanalyse, la clé des songes. Il n'y a pas de dictionnaire de rêve, de dictionnaire de lapsus ou d'acte manqué. Il y a un dictionnaire, mais comme disait Lacan, chacun l'a dans la tête. On ne peut pas l'acheter. Alors comment est-ce qu'on peut le feuilleter? Pour le feuilleter, il y a une seule méthode. Il faut parler. Il faut raconter ce qui vous vient, comme ça vous vient, sans préparer, absolument en roue libre, un mot en appelant un autre, en pure perte. C'est difficile, bien sûr, on n'y arrive pas comme ça, on n'y arrive pas vraiment, justement, mais c'est ça la direction. La psychanalyse, c'est parler comme ça, comme je viens de dire. Ça s'appelle, techniquement, ça s'appelle l'association libre. Un poète a beaucoup mieux dit ça, André Breton, qui fut parmi les tout premiers en France à recevoir le choc de l'événement Freud. Et le surréalisme provient de cet ébranlement-là. Breton disait « les mots font l'amour ». Eh bien, il faut laisser les mots faire l'amour dans la psychanalyse. Alors la psychanalyse est sans doute responsable du culte de la parole qui aujourd'hui est le nôtre. Et d'ailleurs, c'est au point que on déplore partout, qu'on ne lit plus, que les jeunes lisent moins. Voilà encore un méfait de la psychanalyse, certainement. Alors, le culte de la parole, et d'ailleurs, cette émission en témoigne, le culte de la parole est apparu sous une allure subversive en mai 68. Et puis, ce culte s'est diffusé, à partir de là, à l'ensemble de la société. L'ensemble de la société où règne ce qui est devenu un véritable impératif. Le pousse à dire. Devant la difficulté, on dit couramment, faut en parler. C'est le recours. C'est le remède universel, la panacée. On invoque à tout propos l'écoute, l'échange, le dialogue, et si ça ne s'est pas passé comme on voulait, c'est parce qu'on n'a pas écouté, on n'a pas échangé, on n'a pas dialogué. Voilà les puissances dont on voudrait croire qu'elles apaisent tous les conflits dans la société, les conflits dans la famille, les conflits intimes de chacun. Faut en parler. Voilà ce qu'on a découvert. Que la parole, c'est la meilleure anesthésie. Rien de mieux que la parole pour endormir. D'ailleurs, peut-être que vous l'éprouvez en ce moment devant votre poste de radio. Il y en a même pour penser que cette parole-là, la parole anesthésiante, c'est le fin mot de la démocratie. Eh bien, dans la psychanalyse, le pouce à dire, c'est bien autre chose. N'est pas du tout anesthésiant. C'est même le contraire. Se confier à quelqu'un, ça soulage. L'effet est bien connu. On n'a pas attendu Freud pour ça, quand même. Mais ce qu'on observe en analyse, c'est plutôt que, après le soulagement initial, on se met à aller plus mal. Donc là, évidemment, on peut dire stop. Et alors, c'est ce qui fait qu'il y a des petits malins qui proposent des thérapies où il est justement prévu que l'on s'arrête tout près du début, au bout de 12 séances, ou de 20 séances, ou de 3 mois. Au revoir, monsieur, vous êtes guéri. Je vais vous dire, c'est pas idiot du tout. C'est comme faire un garrot. Ça arrête l'épanchement. Et alors, vous vous promenez avec votre garrot, avec votre bouchon. Lacan, toujours lui, ne se gênait pas pour dire « Tout ce qu'on peut obtenir d'effets thérapeutiques en analyse, on l'obtient dans les 3 premiers mois. » C'est un paradoxe. Alors, si c'est vrai, pourquoi reste-t-on des années en analyse, tout de même? On reste si on veut bien. On reste si on n'est pas satisfait, si je puis dire, d'être bouché. On reste si on a pris goût à la chose. Si on s'aperçoit que tout ne s'arrête pas parce qu'on a cessé de pleurer, cessé de se lamenter, cessé de se désespérer, on propose des thérapies aujourd'hui dont le but est de vous remettre au travail. Et le plus souvent, c'est ce qu'on appelle guérir. Ce qu'on appelle guérir, c'est que on peut recommencer à travailler. Pourquoi pas? C'est pas du tout sot. Le travail, c'est la santé. Oui, enfin, c'est surtout, il faut bien le dire, la thèse des employeurs. Votre travail, c'est leur santé. Ou disons, c'est la santé de l'entreprise, comme on s'exprime aujourd'hui. Donc, on vous propose des assurances qui ont leur volet psy. Tout le monde veut du psy. Le bonheur est désormais une affaire psy. Donc, du psy, en veux-tu, en voilà. Et notamment du psy prépayé. On sait quand ça commence, on sait quand ça s'arrête. En anglais, on dit « manage care », du soin organisé, du soin soigné, soigné aux petits oignons. Efficacité garantie. On vous retape en moins de 2, évoque la galère, disponible pour le marché du travail. Utile. Utile socialement. Et l'utilité sociale, il n'y a rien au-dessus de ça. Ils s'en vantent. C'est de la remise en forme psy. On commence par vous demander de cocher les cases d'un questionnaire standard pour indiquer ce qui ne va pas. Vous êtes triste le matin? Un peu? Beaucoup? Passionnément? À la folie? Pas du tout? On va vous arranger ça. Vous vous faites des idées, c'est pas si grave, c'est pas si noir. Vous avez peur des araignées? Voilà une araignée, elle va pas vous manger, elle va pas vous mordre. C'est gentil les araignées, vous vous habituerez. Vous avez peur de descendre dans la rue? Vous souffrez d'idées fausses? Faites-vous accompagner, faites des exercices de sortie dans la rue, ça vous passera, vous verrez. Ceux qui ont inventé ça, et qui sont devenus les rois du managed care, c'étaient des psychanalystes qui s'ennuyaient avec leurs patients, qui pensaient qu'ils passaient trop de temps à écouter des petites histoires pas forcément intéressantes et répétitives, un manque d'imagination et qui faisaient durer leur séance beaucoup plus longtemps qu'une émission de ce genre, qui faisait durer leur séance 40 minutes, 45, 50 minutes, bon, n'en pouvait plus. Et tu devais la boucler, ne l'ouvrir que pour dire « c'est parce que ton papa, c'est parce que ta maman... » Bon, alors ils en ont eu marre. On les comprend. Vu la façon dont on pratique la psychanalyse aux États-Unis, et même ici ou là en France, on peut même dire que ce n'est pas étonnant qu'ils en aient eu marre et que, à certains égards, c'était même une saine réaction. En plus, c'est un Français qui a inventé ça. Comme le cinéma ou l'aviation. Mais ce sont les Américains qui ont fait passer ça au stade industriel. Le génial français, c'était M. Coué, Émile Coué, qui était pharmacien. Il est mort en 1926. La méthode Coué consistait à se lever tous les matins en disant quelque chose comme « Tous les jours, je vais de mieux en mieux ». À la fin, on finit par y croire. Et c'est, paraît-il, souverain pour chasser les idées noires. C'est même comme ça que le baron de Krak est arrivé jusqu'à la Lune. Ça s'appelle de l'autosuggestion. Eh bien, maintenant, il y a des professeurs d'autosuggestion qui enseignent l'autosuggestion en 12 séances, en 3 mois. Évidemment, les professeurs d'autosuggestion sont vraiment très contents d'eux-mêmes. C'est normal, puisque ce sont des as de l'autosuggestion. Ce qui est plus embêtant, c'est qu'ils ont suggestionné des spécialistes de statistiques en leur apportant leur questionnaire. Alors, avec toutes ces petites cases cochées, ça permet de faire des calculs sensationnels. Les administrations en redemandent, et elles-mêmes, qui regorgent de dossiers, enfin les livres aux statisticiens, et tout ça donne naissance à une énorme industrie, enfin, d'expertise, qui se dit collective, mais qui est de l'ordre du... Enfin, de ce qui existe, le délire collectif. Ça leur passera comme c'est déjà en train de passer aux États-Unis. C'est du psy au rabais, du psy Canada Dry, si je puis dire. Vu de loin, ça y ressemble, mais ça n'en est pas. Pas du tout, parce que l'autosuggestion, la suggestion, ça repose sur l'idée qu'on sait ce qui ne va pas et qu'on peut le dire en cochant des cases ou en répondant à des questions types et qu'après, on peut définir des objectifs et les atteindre en un temps donné. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent comme ça de nos jours. La machine s'arrête, on furette à l'intérieur, on trouve ce qui dysfonctionne, on fait le diagnostic, on fait venir la pièce et ça repart. Ou alors, problème dans l'entreprise, le rendement baisse, on fait un audit, on applique, ça repart. Alors, on se dit qu'il n'y a pas de raison que l'intime de quelqu'un ne soit pas de ce modèle-là. Ça suppose évidemment que l'homme, c'est une sorte de machine. Et on est porté, il faut bien dire, à se représenter soi-même comme une machine, puisque on est environné de ces machines et que les entreprises elles-mêmes fonctionnent comme des machines. Donc, on s'imagine que le mental, comme on dit, c'est une pièce de la machine et que le mental est fait pour fonctionner correctement, pour avoir des idées justes, adaptées au monde, conformes à l'ordre du monde. Alors, si ce n'est pas le cas, on suppose qu'il s'est établi des mauvaises connexions, qu'il y a des bugs dans le logiciel. Vous avez des bugs dans votre logiciel mental. Mais l'idée que chez l'homme, le mental soit par nature adapté, réaliste, rationnel, qui fonctionne à la preuve, c'est ce qui n'est pas sûr du tout. C'est plutôt le contraire qui est sûr et certain. Vous voyez les idées que se fait l'être humain. Par exemple, que Dieu l'a fait à son image. Où va-t-il chercher ça? D'où le sait-il? Et qu'il y a un Dieu? Ah, dit-on, on a trouvé une réponse. Ah, mais on dit croire en Dieu, c'est bon pour la santé, c'est démontré. C'est quand même une raison peut-être un peu courte. Mais enfin, laissons Dieu. Voyez le désir. Il y a toujours un problème avec le désir, ça pose toujours une question. Et la jouissance, toujours du trop ou du pas assez, toujours quelque chose qui ne va pas, jamais à sa place, jamais celle qu'il faudrait. Bon, on s'arrange comme on peut. Mais si on veut en savoir un peu plus long, si on sent que son mal-être n'est pas simplement un problème en attente d'une solution, un bobo en attente d'un pansement, mais qu'il y a quelque chose là, de l'ordre du mystère. Alors, on ne se contente pas du mieux qu'on obtient au début d'une analyse. On va au-delà. On affronte la difficulté. On affronte le moins bien. Parce que qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on rentre en analyse, après les trois premiers mois, on a davantage de symptômes. On a davantage de symptômes parce que, d'abord, on s'en aperçoit. On s'aperçoit que ce qui était pour soi-même, eh bien, sa façon d'être, ses façons d'être, on s'aperçoit que ce sont des symptômes. Et alors, les symptômes se mettent à foisonner, en effet. Et puis, ça se met en forme, ça se stylise et... À l'occasion, donc, on n'est plus malade, oui. Et puis, il arrive aussi qu'on devienne mordu, qu'on n'y prenne goût à l'analyse.